Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Le podcast est un phénomène de société et pour en parler, j'ai eu envie de faire appel à un expert du secteur. Avec cet épisode, je vous propose une conversation éclairante sur l'univers du podcast qui vit à la fois une explosion et une structuration alors même qu'il a débarqué en France il y a encore très peu de temps. Il y a désormais un nombre incalculable d'acteurs qui tentent de faire leur place, mais ceux qui parviennent à réellement faire entrer une donnée monétaire dans l'équation, ils sont encore assez rares. Acast en fait partie, c'est une société suédoise implantée dans de nombreux pays dont la France et qui fournit à tout podcasteur, que ce soit des éditeurs ou des indépendants, un hébergement et un accès à la monétisation, donc à l'argent. Mon invité est le directeur des contenus en France d'Acast et avec lui, on a abordé l'univers des médias au sens large, ses pronostics sur l'avenir du podcast et les raisons pour lesquelles il plaît de plus en plus aujourd'hui en France, ses conseils ultra pratiques aux podcasteurs, donc ça c'est cadeau, l'aspect communautaire du podcast, l'importance des nouvelles normes de calcul d'audience et la transparence entre annonceurs et agences comme données économiques. Détrompez-vous, cet épisode n'est pas uniquement dédié aux podcasteurs ou à des gens qui s'y intéressent de plus près, mais à tout un chacun qui a juste envie de dormir moins bête ce soir. Allez, j'arrête de parler et je laisse la parole à Cédric Bégoc, directeur des contenus en France d'Acast.
Cédric, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Réel. Très contente de te parler parce que tu es un professionnel du podcast. Donc je pense que ça va intéresser non seulement les gens qui ont un podcast, mais également toute personne qui s'intéresse à ce secteur pour essayer de comprendre un peu mieux cette économie-là qui est en plein boom depuis maintenant, on va dire, 3 ans, je pense, en France. Enfin, moi, je le chiffre comme ça. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien ton point de vue là-dessus. Mais avant tout ça, est-ce que je peux te demander si ça ne te dérange pas de te présenter autant professionnellement que personnellement ?
Eh ben, avec plaisir.
Et sur le perso, tu nous dis bien entendu uniquement ce que tu as envie de nous dire.
Avec plaisir. Merci beaucoup Estelle pour l'invitation. Merci aussi pour ce très beau podcast. Écoute, moi, je suis donc directeur des contenus chez Acast France.
Ouais.
Donc Acast France, on y reviendra sans doute au fur et à mesure, mais c'est une entreprise qui s'occupe de monétiser les podcasts. Et qui s'est fait un petit peu pour mission de créer un modèle publicitaire pour les podcasts. Donc le modèle publicitaire, c'est celui qui finance la grande majorité des médias depuis Émile Girardin, je crois, 1860 et des patates en France. c'est la France qui a inventé le modèle publicitaire pour les médias, d'ailleurs.
C'est vrai, tu as raison, c'est vrai. On oublie de le rappeler, mais c'est vrai. En fait.
On est un grand pays de médias et de pubs, et donc évidemment...
Tu as raison.
Donc voilà, Acast crée un modèle publicitaire pour les podcasts, l'idée étant de ramener vraiment la podcast money dans la poche des créateurs et des créatrices. Donc moi j'ai rejoint Acast à la création de l'antenne française en début 2019. Avant ça j'ai un long parcours qui a louvoyé à travers les différents postes du média. J'ai commencé comme journaliste musical il y a 16 ans.
Ouais, c'était où ?
Un canard qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Fluctuate.net.
D'accord.
Qui était l'un des rares magazines web à avoir survécu à la première bulle du web.
Ok.
Après, j'ai fait un petit peu de freelance chez différents canards de l'époque. Et puis après, j'ai commencé à sombrer dans la communication. Et petit à petit, j'ai vraiment passé le dark side pour devenir commercial. J'ai passé 6 ans dans mon expérience à Ulule, à Spotify.
Ouais.
Après un passage chez Ulule, à Spotify, je vendais de l'opération spéciale pour les marques.
D'accord.
Donc vraiment, j'ai appris du coup le discours des marques, comprendre un petit peu le modèle des annonceurs et le modèle en fait des revenus médiatiques.
Ok.
Après Spotify, j'ai doublé l'expérience en étant directeur commercial de mademoiselle.com.
Oui, je vois très bien.
Voilà, site cite 15-25 jeunes femmes féministes qui a vraiment été précurseur il y a 15 piges quand ils sont lancés et qui est en train de vivre une mutation justement, une refonte éditoriale reprise par Mélanie Vanga.
Ah, c'est plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, mais c'était un garçon au début.
Exactement, c'était Fabrice Florent.
C'est ça.
Podcasteur qui a créé justement Histoire de Daron, Histoire de Succès.
Ouais, ouais, ouais.
Et qui a vendu Mademoiselle il y a quelques mois.
C'est pas vrai, j'étais même pas au courant.
Eh ouais, c'est tombé pendant le confinement.
Si j'avais su. Ok.
Et bah voilà, c'était aussi la fin d'un cycle avec lui. Et puis c'était intéressant parce qu'il voulait que Mademoiselle soit gérée et managée par des femmes, avec des volontés féministes et des volontés sociétales plus fortes, qu'elles puissent vraiment personnifier toutes ces qualités. Mmh. Et donc le choix s'est porté. Donc c'est Humanoid, le groupe Humanoid qui a racheté Mademoiselle et qui a mis à la tête de Mademoiselle Mélanie Wanga et Marine Lenormand.
Voilà, d'accord.
Pour cet aparté.
D'accord, ok, très bien.
Du coup, c'est marrant parce que moi, je suis arrivé chez Mademoiselle beaucoup pour travailler la vidéo.
Ouais.
En directeur commercial, donc sur la vente de vidéos et d'influence. Et je suis sorti de là passionné et persuadé qu'il fallait avancer dans le podcast.
Ah, tu vois, ouais. Le podcast. Ouais, ben, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, j'ai fait un peu la même analyse au début. J'étais à fond sur la vidéo. Enfin, il y a quelques années d'ailleurs, je me disais, mais mon Dieu, il faut faire des trucs, etc. Et puis quand tu vois les coûts, enfin les marges que potentiellement tu peux dégager dans la vidéo et celles que tu peux potentiellement dégager dans le podcast, ça n'a rien à voir.
Bah, c'est clair qu'en fait, la vidéo, c'est un marché qui n'a pas eu une vie facile.
C'est vrai.
Il y a 10 ans, ouais. Il y a 10 ans, quand ça se lance, alors il y avait de l'espace pour des créateurs, pour des nouvelles voix, ce qui résonne d'ailleurs pas mal aujourd'hui avec le podcast. Et c'est intéressant parce que ça résonnait il y a 20 ans avec les blogs. Donc, une vraie nouvelle voie pour créer un média de consommation, mais qui soit vraiment porté par des indépendants. Mmh. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé dans la monétisation de la vidéo, c'est que très rapidement, il y a eu beaucoup d'acteurs techniques, de régie externes qui sont venus et qui se sont vraiment partagé le marché un petit peu à la sauvage. Et du coup, ça a eu pour effet très rapidement de faire baisser les prix de vente de la vidéo, après un premier âge d'or où tout le monde vendait n'importe quoi. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un marché où la plupart de ces acteurs n'existent plus. Ils ont laissé un marché qui a été vraiment sinistré. Du coup, les acteurs de la vidéo, l'acteur principal de la vidéo aujourd'hui, Google, a vraiment eu qu'à un peu se baisser pour ramasser tout ça, réorganiser et embarquer la majorité des budgets vidéo chez eux, quoi. Et donc, du coup, c'est typiquement ce qu'on essaye d'éviter au podcast, pour le coup.
Ouais, ouais. Est-ce que on peut parler... Oui, alors donc du coup, donc post-Mademoiselle, Acast direct, c'est ça ?
Il y a pas mal de gens qui sont chez Acast qui sont d'anciens de Spotify. Mm-hmm. Acast, c'est une boîte suédoise comme Spotify. Et il y avait un gros tiers d'anciens Spotify chez Acast quand moi je suis arrivé il y a 2 ans. Mm-hmm. Donc du coup, c'est une boîte que je suivais du coin de l'œil depuis un moment. En regardant comment ils allaient évoluer et on discutait un petit peu avec eux pour pousser des informations sur le marché français pour avancer l'ouverture de la branche française. Donc quand ça s'est ouvert, c'était vraiment un sujet pour moi de venir travailler au développement d'Acast. J'étais le deuxième employé français de la boîte.
Il y en a combien maintenant ?
8 sur la France et on est 12 sur le bureau français. Parce qu'on a la joie d'avoir pu internaliser depuis le bureau français des product owners, des développeurs, des ingénieurs qui bossent sur des équipes internationales mais qui sont basées en France.
Donc en fait, ça fait 12 en France au total.
Et 7 qui sont spécifiquement juste 8 juste sur le marché français.
D'accord, mais donc la boîte au sens total, c'est combien de personnes environ à Cast ?
Ah, au global, ouais. 270 et quelques.
Ouais, c'est ça. C'est une grosse machine quand même. Enfin, ça devient une grosse machine.
Ça commence à s'organiser.
Ouais.
Après, on est dispo sur 16 territoires. Donc, ramener au ratio par bureau, ça fait une petite douzaine, une petite quinzaine. Mm-hmm. Sachant qu'on a une régie dans chaque pays où on est ouvert, on n'est pas si nombreux en fait.
Je comprends ce que tu veux dire en rationnel.
Tu vois, sur une présence globale et tout ça.
Ouais.
Moi, quand j'avais commencé chez Spotify, En 2010, on était 400.
Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur Acast, justement, et sur la mission d'Acast, et après sur ton boulot à toi au sein de cette boîte?
Ouais, bien sûr, avec plaisir. C'est mon sujet préféré, l'évolution des podcasts. Acast est né d'un constat en 2014 à Stockholm, cette belle ville où il fait
beaucoup
trop nuit, là, moi.
Oui, mais j'adore Stockholm quand même.
En été, c'est bien. Mais c'est vrai qu'en été, c'est génial.
Ah, mais même
en hiver, c'est un peu la dep.
Oui, je sais, mais je sais pas, il y a un truc, je sais pas. Moi, j'aime bien être là-bas. J'ai un truc avec les pays nordiques. Je sais pas. Ouais.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance, il y a un truc un peu spécial dans les pays scandinaves.
J'adore. Vraiment, j'adore.
Moi, j'aime bien, j'ai une petite préférence pour le Danemark.
Ouais, aussi. Magnifique. Ouais. Ça, j'ai eu un vrai coup de cœur. Un vrai coup de cœur. Ouais.
Copenhague, c'est beau en plus, quoi.
Ah ouais, c'est très beau et c'est hyper cool, hyper propre, hyper. Je sais pas, j'adore. Ça m'a fait penser un peu à la Hollande.
Ouais. Et les gens sont beaux au Danemark, surtout, pardon.
Encore une digression, ils sont... mais... Je suis d'accord. Et en plus, contrairement à ce que les gens pensent, je trouve qu'on mange très bien.
Oui.
Bizarrement,
mais c'était une capitale. C'est une capitale culinaire aussi. Ouais. Ils avaient le Numa, meilleur restaurant du monde pendant des années.
Non, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc revenons à nos moutons. Donc Acast, oui. Boîte suédoise qui fait un constat en 2014, c'est ça?
Exactement, qui est celui que les écoutes de podcast grandissent. Il y avait vraiment déjà des grosses niches, des gros indépendants en Suède en 2014 qui faisaient du podcast. Ils ont toujours été un petit peu en avance sur l'audio, hein, les Suédois.
Mm-hmm.
Et donc du coup la question venait de plus juste être une plateforme technique pour aider ces podcasteurs à se distribuer, mais vraiment rentrer dans l'étape d'après qui était comment est-ce qu'on leur ramène de l'argent pour qu'ils aient une économie des médias sur leur podcast et qu'ils puissent en fait pérenniser leur création et surtout en fait petit à petit prendre le large, avoir des investissements, réussir à investir plus, développer leur activité.
Mmh.
Et donc la question c'était comment est-ce qu'on pérennise de la création et comment est-ce qu'on injecte de l'argent dans un média? C'est facile, hein, il y a deux solutions. Soit l'abonnement, soit la publicité.
Mm.
C'est comme ça que les médias marchent depuis vraiment longtemps. Celui dont on sait qu'il sera toujours là, c'est la publicité.
Alors, celui ça, sur c'est lequel une grande on question, peut avoir ouais, une influence. Justement. Pardon. Je sais pas, tu vois. Alors ça, c'est... Enfin, attention, la publicité telle qu'on l'entend, je pense qu'on reviendra là-dessus ensemble parce que ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Mais c'est vrai que je pense qu'on va vers peut-être un nouveau format de publicité.
Ça, c'est sûr.
Ouais. Mais on y reviendra.
Et d'ailleurs,
reviendra.
C'est intéressant. Et donc, du coup, voilà, vraiment, le modèle, ça a été... d'embarquer, de créer un modèle, une économie des médias, un modèle publicitaire pour le podcast. Ça s'est développé en Suède, ça a essaimé assez rapidement en Scandinavie. Acast a ouvert l'Angleterre il y a 4 ans maintenant, donc 2 ans après la création, les États-Unis il y a 3 ans et la France il y a presque 2 ans.
Mmh.
Donc là, les dernières ouvertures, ça a été le Mexique et le Canada.
Ok.
Avec à chaque fois ce modèle qui est de venir voir les podcasteurs et les aider en fait à développer un modèle publicitaire. À la fois en vendant des spots audio, type ce qu'on peut entendre sur Spotify et Deezer, mais avec un prix plus haut, qui valorise en fait l'expérience podcast. On n'est pas sur un tunnel de publicité, on est sur une publicité unique en intro ou en fin de l'épisode. Et évidemment, d'accompagner le développement d'un format qui est vraiment le format star du podcast, qu'on appelle le sponsoring. Donc là, c'est le podcasteur ou la podcastrice qui écrit le script pour une marque, qui l'incarne. Quand tout se passe bien, en plus, c'est vraiment un alignement des valeurs entre c'est la bonne marque, la bonne animatrice ou le bon animateur et la bonne audience. Donc, il y a vraiment une réinvention de la com d'influence. Et je pense qu'en fait, c'est intéressant parce que ça s'installe pas en opposition, mais en complément de ce qui peut se faire sur Instagram. Sur Instagram, la com d'influence, ça va être un post ou une vidéo de quelques secondes. En podcast, on va pouvoir travailler un discours qui est de 60 secondes, 90 secondes. Et parfois, dans certains cas, tu as même des épisodes complets qui peuvent être faits en partenariat avec une marque.
C'est ça. Parce que juste pour petite précision, parce que c'est vrai que pour nous, ça nous paraît hyper compréhensible, mais c'est vrai que c'est en fait un message qui est lu en amont de l'épisode par le host, enfin par la personne qui tient le podcast et qui essaye de décrire le lien entre lui, ses valeurs et la marque en question, tout en essayant de valoriser les produits du sponsor. Quoi.
Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est encore au tout début de l'histoire, nous, sur le sponsoring en France. Moi, je vois ce que font les petits copains outre-Manche. Il y a un podcasteur qui est très drôle, qui s'appelle Adam Buxton.
Ouais.
Lui, il prend son ukulélé et il fait des chansons pour les sponsors. Et donc, des fois, il a des sujets un peu chiants, genre « Abonnez-vous à The Economist », pas sexy. Et ben, lui, il fait une petite chanson en faisant des blagues et tout ça pendant une minute. Et c'est ultra marrant. Et les gens commentent sur ses réseaux sociaux pour lui dire « J'ai vachement aimé ton sponsor » et tout ça. Donc, il y a une approche créative encore à installer en France pour déjà rendre les sponsoring plus sympas. Parce que le but, c'est vraiment pas juste d'implémenter une pub, encore un nouveau format pub, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser ce nouveau terrain vierge pour faire des trucs un peu plus sympas. Les marques, elles sont assez preneuses de ce genre de démarche.
Bah, d'autant qu'en plus, on va peut-être en parler, mais en fait, sur Acast, on retrouve... excuse-moi, je fais un pont entre deux trucs, mais d'une part, il y a quand même des marques qui ont leur propre podcast, type Guerlain. Enfin, je me souviens, Guerlain avait fait une série de podcasts qui cherchait à représenter la femme Guerlain. Donc, ils faisaient des suites d'interviews d'actrices, d'auteurs, de femmes, par Augustin Trapenard, je crois, à l'époque, c'était. Donc, il y a le podcast de marque qui, maintenant, commence à émerger. Sous réserve qu'il y ait une vraie raison d'être, on va dire ça comme ça,
ouais.
Pour pas faire un podcast pour faire un podcast. Après, il y a aussi sur Acast, là, pour le coup, il y a autant d'indépendants type moi, par exemple, ce qu'on appelle des podcasts natifs, et puis après, il y a des podcasts de journaux, de médias existants, etc.
Exactement.
Il faut distinguer les deux, ouais.
Ouais, il y a trois typologies en France. C'est intéressant parce que dans la plupart des autres pays, il y en a deux. En France, on a d'un côté les médias. Effectivement, les Échos, 20 minutes, Le Parisien, Le Monde, Ebra aussi. Donc c'est le groupement Dauphiné Libéré, plein de journaux régionaux. On a la typologie des indépendants. Ouais. Estelle Abou, Fabrice Florent,
ouais.
Anouk Perry, Marine Bausson, plein de gens. Et après, évidemment, plein de plus petits indépendants qui travaillent des niches. Et qui grandissent petit à petit. Et un petit peu entre les deux, on a cette typologie qui n'existe pas vraiment ailleurs, c'est les studios de podcast.
Binge oui, Audio,
Louis Media, Bababam. Qui sont des studios éditeurs. Parce que ce qu'on a aussi, c'est les studios producteurs, ceux qui produisent des fictions qui sont rachetées par Spotify, par Amazon, par Audible. Et qui, comme à la télé, sont vraiment des producteurs qui ne produisent que si on leur achète des produits. Alors qu'effectivement, Louis, Binge se définissent plutôt comme des médias.
Mmh.
Et sont un petit peu à la croisée des chemins entre les deux. Et d'ailleurs, ils ont pas mal poussé justement la visibilité du podcast en 2017, en 2018. Donc ça a vraiment permis d'avoir plus de poids aux côtés des indépendants. Ça a permis aussi, je pense, à pas mal de médias de se lancer. Parce qu'ils ont été là pour leur faire un petit peu le pont. Mmh. Et après, c'est intéressant parce que on va voir comment tout ça se développe en 2021. Quels sont les médias qui vont se développer en podcast? Quels sont ceux qui vont arrêter? Moi,
est-ce que t'en
mon pronostic. Ouais, j'en ai plein.
J'adore la prospective, donc allons-y.
Moi, je pense qu'en fait, on va avoir une énorme vague d'indépendants.
Ouais.
Qu'on ne l'a pas encore forcément vu en France. Parce que le spotlight était beaucoup sur les studios, mais qu'il y a beaucoup d'indépendants en France et qu'on a plein de gens et plein de créatifs qui ont plein de choses à dire et des façons de traiter les sujets qui vont être tout le sel du podcast. Et que ceux-là, pour l'instant, se sont un petit peu développés à l'ombre des studios et que petit à petit, ils vont émerger à la lumière. Et que cette vague d'indépendants, c'est celle-ci qui va porter une grosse partie du podcast sur les années à venir.
Si je puis me permettre, en plus, je me permets de t'interrompre, mais c'est surtout que, tu vois, moi, j'ai même observé des gens qui n'avaient rien à voir avec les médias, qui ont une profession libérale, qui ont, je sais pas moi, des avocats, des thérapeutes, tu vois, tout un tas de gens, en fait, qui se disent, attends, ce truc-là est exceptionnel parce que c'est le nouveau blog, tu vois, enfin, d'une certaine manière, ça leur permet de créer du contenu. Alors, ils savent pas forcément comment s'y prendre, mais en même temps, comme j'ai envie de dire, comme tous les indépendants, tu vois, moi aussi, au début, malgré mon petit bagage de journaliste, j'avais pas du tout, j'avais aucune notion du podcast. Enfin, si ce n'est que j'en écoutais aux États-Unis. Ouais. Mais c'est vrai que là, je te rejoins, il y a plein de gens qui viennent à ce média et qui sont pas du tout médias.
Ouais. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce que le parallèle que tu fais avec les blogs, il est ultra pertinent. Moi, je me souviens à l'époque quand Maître Eolas, je sais pas, c'était le premier blogueur qui était avocat à la barre. Il venait donner en blog son avis sur les lois qui passaient, sur les problématiques légales ou sociétales, et qui venait éclairer tout ça de son œil d'avocat.
Ouais.
C'était le genre de contenu qu'on ne voyait, qu'on ne lisait jamais avant dans un média traditionnel.
C'est ça.
Et autant en vidéo, il y avait une barrière un petit peu à la vidéo qui était, fallait maîtriser un petit peu la technique, le montage vidéo, tout ça, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de gens qui étaient experts de la vidéo, des monteurs et tout ça. Norman, c'était un monteur à la base, ou de gens un petit peu de la scène. Mm-hmm. Et ça a été, même si petit à petit, c'est vraiment devenu aussi un média d'indépendant, le podcast a beaucoup moins de barrières techniques à l'entrée.
Bien sûr. C'est très, très intuitif comme truc.
Ouais. Mm-hmm. Ce qui va être, par contre, l'autre problématique, c'est que émerger en podcast, c'est moins facile aussi.
C'est très compliqué. Mais tout comme, j'ai envie de dire, à l'époque, c'était galère aussi pour le blog, hein, finalement.
Ouais, mais il y avait moins de blogs.
Oui, il y en avait moins, ouais. Mais là, c'est très compliqué. Avait... Bah, d'ailleurs, ça m'intéresse de t'entendre là-dessus. Quels sont les moyens d'émerger? En fait, alors attention, hein, il y en a 200. Mais ouais. Selon toi, je sais pas, demain, il y a un podcasteur qui veut se lancer, tu le conseilles quoi?
C'est toujours intéressant parce qu'il y a vraiment une recette, pas une recette par podcasteur, mais il y a différentes typologies. Mm-hmm. Pour des gens qui ont déjà un peu des réseaux sociaux, qui ont déjà des petites communautés Instagram, pas forcément 2000 personnes, mais même 100, 150, 200, ne serait-ce que ce soit les potes, des gens qui ont déjà une vie sur le web, de vraiment pas du tout hésiter à demander aux amis, aux potes, de partager les épisodes, de partager le podcast. C'est encore aujourd'hui, malgré ces effectivement 2 ans, 3 ans de développement, c'est encore un média de bouche à oreille. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 1. Réussir à construire une communauté autour de soi, c'est la première base pour commencer à faire émerger son média. Après, évidemment, un des points phares le plus important, c'est le contenu. C'est-à-dire qu'il faut faire quand même un petit peu attention à monter, avoir un son propre, vraiment les minimums requis techniques, faut pas qu'il y ait de souffle, faut pas qu'il y ait de bruit de fond, ce genre de choses. Mais une fois qu'on a un contenu propre, bien se poser la question tout le temps de est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont en penser, prendre des feedbacks, est-ce qu'il faut que je coupe, est-ce qu'il faut que je raccourcisse, est-ce qu'il faut que j'allonge, trouver son ton. Ça se fait pas à l'épisode 1, ça se fait à l'épisode 10, mais petit à petit, faut pas oublier ça. Et après, en fait, une fois qu'on a commencé à engranger tout ça, là, l'intérêt, ça va être déjà de venir nous poser la question, mais effectivement, essayer de commencer à avoir un petit peu des échanges de visibilité avec d'autres podcasteurs. Donc, pas du tout hésiter à aller contacter d'autres podcasteurs qui sont un petit peu du même dans le même tonneau, quoi. Allez pas directement contacter Charlotte Pudlowski en lui demandant de faire un échange de visibilité avec émotion, ça va pas fonctionner tout de suite. Mais voilà, commencer à travailler vraiment ce côté communautaire.
Ouais.
Et en fait, je reviens dessus, mais comme les blogs il y a 20 ans, les blogueurs s'échangeaient des audiences, comme les youtubeurs il y a 10 piges, ils se faisaient des feeds, ils s'invitaient les uns les autres, ils s'envoyaient les uns vers les autres. Et en fait, on réinvente pas du tout le beurre en podcast. Il faut réutiliser ces techniques-là. Essayer d'avoir un petit peu de RP. Donc, il y a des choses faciles. Il y a Podmust en France. Il y a Radiotips, géré par Samia Basile. Il y a des médias qui s'intéressent uniquement au podcast. Il y a Télérama qui a une rédac podcast. Il y a Slate qui a une rédac podcast. Mmh. Le Monde aussi commence à monter de la critique de podcast. Donc, vraiment pas hésiter à faire un petit communiqué de presse, leur envoyer. Et après, nous, côté Acast, on a la chance de pouvoir discuter assez régulièrement avec Apple Podcasts, donc on leur pitch des podcasts. Mm-hmm. Mais en fait, ça, tout le monde peut le faire. Mm-hmm. Donc, n'hésitez pas aussi à pitcher vos podcasts chez Apple Podcasts. Donc, ils ont un document de soumission. Donc, voilà. Et puis, à côté de ça, essayez aussi de le faire chez Deezer, chez Spotify, chez les autres applis de podcast, Podcast Addict, ce genre de choses. Mais la base, c'est la communauté.
Ouais.
Réussir à faire grandir la communauté.
Et ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Enfin, c'est ce qui fait le plus peur aux gens, finalement. Parce que ça prend énormément de temps, que les outils finalement sont assez branchés contenu, enfin sont assez contenu quoi, parce que il faut, enfin même moi si tu veux, je me pose des questions sur réel. Là j'ai décidé de lui donner une autre dimension parce qu'au bout d'un moment tu plafonnes en fait, même si, enfin c'est-à-dire que si tu restes uniquement sur le canal au podcast et que tu vas pas sur d'autres canaux, c'est compliqué de décoller, je pense. Ouais. Quand je dis d'autres canaux, c'est, je sais pas moi. Ça peut être YouTube, ça peut être enfin une chaîne YouTube, ça peut être une newsletter, ça peut être voilà plein de trucs qui sont qui permettent de faire grandir ta communauté parce que finalement c'est très lent le podcast. Moi je m'en suis rendu compte.
Ouais.
C'est très très lent parce que t'es en permanence en train de demander aux gens est-ce que tu peux relayer, est-ce que tu peux t'abonner. Enfin c'est waouh tu vois c'est long. C'est-à-dire que la communauté tu la gagnes alors par ton réseau personnel aussi. Il y a de ça qui joue. Parce que tu fais en parallèle, par ton métier parallèle, je pense, mais après, tu vois, c'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile.
C'est un vrai boulot de longue haleine, ouais. En fait, c'est les premières audiences, c'est les plus dures à avoir. Parce que c'est là qu'il faut tout construire.
Ouais.
C'est là qu'il faut poser les fondations, c'est là qu'il faut embarquer les gens dans ton aventure. Ta première communauté, la plupart des gens, ils savent même pas ce que c'est un podcast, donc faut leur expliquer.
Je m'en souviens bien.
Pénélope Boeuf.
Ouais. Ouais, ouais.
C'est Pénélope Boeuf qui disait mon podcast, je l'ai porté sur ma tête pendant un an.
Je me souviens, mais elle est quand même incroyable parce que c'est franchement une des nanas, la seule qui a fait de l'affichage publicitaire. Je la trouve extraordinaire, ouais. Pénélope. J'ai d'ailleurs fait son podcast la semaine dernière, on a échangé. Elle est incroyable. Mais
c'est une boule d'énergie, elle est incroyable,
ouais.
Sa nana.
Ouais. Ouais. Sportive de haut niveau, je l'appelle.
Ouais, c'est vraiment
une. Mental.
Mais elle a une capacité, ouais, de motivation, de volonté.
C'est impressionnant.
Qui est hallucinante.
Impressionnant. Elle te motiverait un troupeau de je sais pas quoi d'ailleurs, mais elle est impressionnante. Ouais.
Mais c'est vrai que c'est, voilà, l'exemple Pénélope Boeuf. Si vous
c'est vrai
voulez,
que c'est un bon exemple, ouais. Bah, ça tombe bien.
Que ferait Pénélope Boeuf à ma place? Ben, en fait, ça.
Ça tombe bien, je la diffuse prochainement, tu vois. Enfin, là, on enregistre, donc ce sera un peu postponé par rapport à ce que je dis maintenant avec toi, mais ce sera avant. Mais effectivement, je la diffuse, je diffuse son podcast bientôt. Et c'est un super exemple.
Et en fait, ce que je disais, c'est pour rebondir sur ce que toi, tu disais, effectivement, les newsletters, c'est un super outil.
Mm.
Ça permet de garder le contact.
Mm.
Instagram, c'est l'outil préféré des podcasteurs.
Ouais.
Parce que ça permet de ramener un petit peu de visuel dans cet univers qui est très audio. YouTube, c'est pas du tout inintéressant.
Mm-mm.
Mais je pense que le piège, c'est de pas mettre l'intégralité de ses épisodes sur YouTube.
Mm-mm.
Parce que, par exemple, une vidéo YouTube, c'est vu en moyenne pendant 2 minutes. Un podcast, c'est écouté en moyenne pendant 26 minutes en France. Donc, du coup, si vous mettez l'intégralité de vos épisodes sur YouTube, eh ben, déjà, vous pouvez pas les monétiser puisque YouTube ne monétise que à travers son système. Donc, c'est, vous gagnez moins de sous. Mais surtout, les gens vont sans doute pas l'écouter jusqu'à la fin.
Mm-mm.
Ça, c'est un truc que fait Fab Florent sur Histoire de Daron. Avant, il avait tous ses épisodes sur YouTube. Maintenant, il met juste les 5-10 premières minutes.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et il dit aux gens, pour écouter la suite, retrouvez-moi sur une app de podcast et tu trouves ça dans les liens.
Mmh.
Donc ça permet de garder la visibilité d'un canal comme YouTube. Sans perdre, et en amenant mine de rien tes auditeurs à ton app de podcast et à s'abonner, quoi.
Mm.
Et LinkedIn aussi, très intéressant.
Bien sûr.
Il se passe beaucoup de choses sur le podcast en LinkedIn. Ouais.
J'ai vu ça. Et ils te proposent, en plus, c'est une machine de guerre, LinkedIn. Effectivement, je vois qu'ils sont en train de, mais même de démarcher. Hein. Moi, ils m'ont démarché LinkedIn. C'est drôle.
Ils t'ont demandé quoi?
Eh ben, écoute, ils m'ont demandé, je sais plus, d'être auteur ou quelque chose comme ça. Et puis après, ils te proposent aussi de mettre en avant tes produits. Enfin, ils se démènent. Je trouve qu'ils ont un marketing, ces gens-là. Ils sont impressionnants. Moi, LinkedIn, je suis bluffée.
Ouais, c'est clair que...
Ils sont partout. Franchement, ils sont partout. Ouais. C'est devenu un média à part entière en plus parce que je sais pas si tu vois, mais de manière, je crois, hebdomadaire ou peut-être quotidienne, je sais plus. Mais tu peux avoir une sorte de newsletter avec des infos hyper actuelles. T'as 4-5 bullet points, tu vois, sur des trucs qui te parlent en fait, parce que je pense qu'ils ont de la data derrière et qu'ils font en sorte de te pousser des articles. Voilà, donc c'est à la fois un média, à la fois un réseau, enfin c'est d'une puissance. Et là, ils se lancent dans la formation gratuite, voilà.
Ouais, ils ont tout compris.
Ouais, franchement, ouais. Vraiment, ils sont bon, ils ont beaucoup d'argent pour financer, mais c'est quand même un truc de fou parce qu'ils ont pris un virage assez épatant, je trouve. Franchement, avec un modèle en plus hybride où tu peux avoir à la fois un abonnement freemium, enfin tu vois, c'est vachement bien foutu. Bon, on parle pas
de... C'est ultra intéressant.
Ouais.
Mais dans le genre, pour faire un parallèle... En plus, avec une de tes anciennes invitées, quand je bossais chez Ulule il y a 10 ans,
j'ai
bossé
de Sarah.
Au lancement d'Ulule. Exactement.
Ouais.
Sarah, effectivement, qui était aussi une ancienne d'Ulule. Dans le lancement des projets.
Sarah Korn.
En crowdfunding, Sarah Korn.
Ouais.
Excellente personne.
Oh, fabuleuse. Je l'adore. Un petit bonbon.
Elle est géniale.
Ouais.
Et du coup, au lancement de projet, il y a 10 ans, je me confrontais effectivement aussi à des porteurs de projets qui avaient des super contenus, des super idées et qui se demandaient aussi comment créer les premières communautés des gens qui allaient investir des sous, leur donner des soutiens pour que leur projet prenne vie. Mmh. Et on avait beaucoup qui se disaient « Je vais faire de l'ARP et mon projet, il va apparaître sur Télérama et tout le monde va venir me donner des sous. » En fait, ce qu'on leur expliquait vachement chez Ulule, j'avais fait un petit schéma en 3 cercles, c'est que il faut tout le temps que ton premier cercle de soutien, ce soit les gens qui sont autour de toi, que eux ils montrent à tous les autres qu'ils ont confiance en toi et qui te soutiennent. Et puis après, t'as un deuxième cercle qui sont les gens un peu plus éloignés, des contacts pros, tes contacts de réseaux sociaux et qui se rendent compte de ce que tu fais et qui s'y intéressent. Et le troisième cercle, qu'on peut jamais toucher avant que les deux autres soient déjà embarqués, c'est effectivement les gens qui te connaissent pas du tout. Et le podcast, c'est un peu pareil.
D'accord.
Avant de pouvoir toucher des gens qu'on connaît pas du tout, il faut qu'il y ait eu des relais, du bouche à oreille, des posts LinkedIn, des Instagram, du discours qui a pas été créé par toi et qui va petit à petit, voilà.
Qui d'ailleurs souvent est assez différent de ce que t'as pu penser. Enfin, moi, j'ai eu des belles surprises.
Ouais.
Et puis en plus, c'est bien parce que ça permet au contenu de vivre à travers sa communauté. Donc c'est quand même une marge d'évolution. Intellectuellement, c'est hyper enrichissant. Enfin, vraiment, moi,
ouais.
je me nourris beaucoup de l'interprétation que la communauté peut se faire de ton podcast, de la manière dont tu fais les choses. Parce que moi, finalement, tu les fais, mais je me rends pas compte du tout, si tu veux, de comment c'est interprété, comment c'est vécu. Et c'est un média très intimiste, donc forcément, qui appelle à l'empathie. On va dire ça comme ça.
Mais il y a... ça, c'est vraiment une de mes petites marottes sur pourquoi le podcast est en train d'exploser, c'est qu'il y a effectivement cet aspect média communautaire. Communautaire dans le sens noble du terme. Mais vraiment, c'est une proposition éditoriale d'un créateur ou d'une créatrice qui est suivie par une audience, qui va venir lui poser des questions, qui va venir lui dire « tu devrais faire ci, et ça, ce serait pas mal ». Je prends même l'exemple de Lorraine Bastide sur La Poudre, sur les premiers épisodes. Il n'y avait pas forcément beaucoup de personnes racisées. Et donc, petit à petit, sa communauté lui a fait remonter ça. Et elle a modifié au fur et à mesure. Elle a fait des choix conscients pour ouvrir la poudre à plus de diversité et d'autres problématiques. Et en fait, souvent, ça se passe comme ça en podcast. Et je pense que c'est là où le podcast s'est construit.
Bien sûr.
Le podcast français est très sociétal, un petit peu par essence, en tout cas, historiquement. Ça va sans doute devenir un peu plus mainstream, un peu plus humour. On va sans doute avoir un peu plus de trucs de sport. Voilà, ça va se diversifier. Mais il s'est vraiment construit, je pense, à l'ombre des médias traditionnels. Tous les sujets qui n'étaient pas traités en médias traditionnels, ou des angles qui n'étaient pas pris, ou alors des conversations qui n'étaient pas poussées jusqu'au bout parce qu'on n'avait pas le temps, et ben du coup, elles ont trouvé leur place en podcast. Et c'est intéressant parce que la plupart des médias qui se mettent au podcast, ils y viennent pour retrouver des formats long read. C'est les longs articles qui mettent 20 minutes à lire. Bon, bah là, ils les font écouter parce que ces articles ne sont plus lus sur les sites. Donc, c'est voilà, on retrouve un média de long terme et ça fait du bien, mine de rien.
Oui, ça fait du bien. Oui, donc on parlait d'Acast juste sur le modèle, si tu veux, pour que les gens comprennent bien. Donc, il y a une partie effectivement de diffusion. Donc, vous vous chargez pour les podcasts de les diffuser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte parce que j'essaye d'expliquer le truc de manière un peu abordable au sens où, voilà, quand on a un podcast, l'essentiel étant qu'il soit le plus multidiffusé, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, les plateformes de diffusion, je ne sais même plus combien il y en a tellement il y en a. D'ailleurs,
il y a des centaines.
Voilà, j'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est créée tous les mois, quoi, depuis que le podcast existe, en France en tout cas. Et en parallèle, Acast se charge aussi donc de la partie régie publicitaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comment tu te positionnes sur le marché ? Est-ce que, bon, si ça te gêne d'en parler, on n'en parle pas. Mais c'est vrai qu'il y a des concurrents qui font ça aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui se chargent aussi de diffuser et de monétiser. Après, j'ai un peu l'impression que vous êtes, on va dire, alors, je sais pas. À vrai dire, j'ai pas envie de te flatter uniquement. Ce serait bête de dire ça, mais est-ce que tu te considères comme le leader ? Enfin, est-ce que tu considères qu'Acast est le leader dans ce secteur-là ?
Écoute, on a travaillé comme des zinzins depuis un an et demi pour y arriver, mais je pense que oui.
D'accord.
Pourquoi ? Je vais.
Ouais, les critères du leadership, en fait, c'est ça. C'est intéressant aussi de savoir. Quels sont les critères du leadership ? Enfin, pourquoi vous êtes le leader ?
Pour moi, il y a trois éléments qui sont super importants. Le premier, en fait, c'est que il faut donner les bons outils aux podcasteurs et il faut donner les bons outils au marché pour pouvoir investir. Et en fait, ce qu'Acast a fait dès le début, en 2014 en Suède, c'est de créer une techno d'insertion publicitaire de podcast, c'est-à-dire qu'au lieu d'enregistrer les publicités en dur dans le fichier audio et qu'elles restent là à tout jamais. Donc, si on écoute des vieux épisodes de Serial, un podcast américain de 2015, on a des pubs qui datent de 2015 aussi. Donc, l'idée, ça a été de créer vraiment un système d'insertion dynamique. Donc, à la fin d'une campagne, ça change automatiquement, qu'on puisse monétiser les écoutes d'épisodes qui datent d'il y a 2 ans, 3 ans avec des campagnes de maintenant pour que le créateur ou la créatrice gagne de l'écoute, gagne de l'argent sur toutes ces écoutes passées, présentes et, inch'Allah, futures. Ce système-là, en fait, il est ultra complexe. Nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle du vrai dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque requête, chaque demande d'un épisode, on va interroger un serveur pour insérer la publicité. À ma connaissance, on est la seule boîte du monde à le faire à ce niveau-là. Et en fait, pourquoi c'est important ? Parce que ça, c'est structurant. Ça permet d'aller dire aux différentes agences sur le marché qu'on va pouvoir respecter tous les ciblages, toutes leurs problématiques de livraison, de capping. Le capping, c'est pour éviter que le même utilisateur prenne trop souvent la même pub. Et pouvoir en fait intégrer le podcast dans leurs habitudes d'achat, que ce soit display, les bannières, ou vidéo, ou leurs autres habitudes d'achat sur le web. Et rien que ça, quand on a lancé la régie en septembre 2019, ça a ouvert un nombre incalculable de portes dans les agences. Et après, à côté de ça, il y a l'audience, la mesure de l'audience. Donc nous, on est arrivé en France avec la certification IAB.
Ouais.
C'est la certification internationale des chiffres de podcast. Donc, c'est vraiment une mesure des écoutes de podcast. Ça veut dire, l'IAB, pour résumer, il faut qu'une écoute fasse minimum 1 minute pour être comptée. Quand c'est un téléchargement, il faut qu'il soit fait à 100%. Si c'est fait à 97%, il ne sera pas compté, parce qu'en plus, il n'est pas lisible sur 9 dixièmes des plateformes. On filtre aussi tout ce qui est IP frauduleuses, spiders, bots, qui sont identifiés par l'IAB. Sachant que 90% du trafic du web, c'est des bots, c'est super important de filtrer ça.
Ça, c'est clair. D'autant qu'il y a eu pas mal d'audiences mytho à une époque quand même, non ? Je pense pas qu'il y a eu un peu d'audiences mytho au sens... Mais alors, est-ce que c'était volontaire de la part de certains podcasteurs ou pas ? Mais est-ce qu'il y en a pas qui ont profité de ce truc-là pour augmenter leurs audiences de manière un peu frauduleuse, entre guillemets ?
C'est possible. Après, je pense que globalement, ça a été fait sans mauvais esprit. En fait, moi, quand j'étais directeur commercial de Mademoiselle, on utilisait plusieurs hébergeurs pour les podcasts. On voyait des différences de 1 à 10 dans les statistiques. Donc du coup, honnêtement, quand on parlait avec les annonceurs, moi je leur montrais un petit peu, je leur expliquais un peu comment je faisais mon calcul, j'essayais de normer un petit peu tout ça. Je sortais pas que les chiffres ultra optimistes parce que ils étaient suspects, très honnêtement. Et donc du coup, voilà, c'était super important pour les agences médias et les annonceurs de pouvoir parler de vrais chiffres avec une vraie norme et une certification. Donc l'IAB, c'est ce qu'on a amené. Assez rapidement, on s'est rapproché de la CPM, qui est donc le certificateur des audiences de presse et de web radio. Et donc, qui lançait une mesure, la CPM Podcast, qui l'ont lancé en juin, qui était le premier classement certifié nationalement par un tiers de podcasts en France.
Ouais.
Donc, Acast, c'est la seule boîte en France qui est à la fois certifiée par l'IAB et par la CPM.
Ouais.
Donc, cette volonté de transparence pour les annonceurs et les agences, c'est aussi un élément ultra structurant du marché. D'un côté, tu peux cibler très précisément par écoute tes publicités. Sur le deuxième, tu as des chiffres qui veulent dire quelque chose. Et après, le troisième élément, ça a été aussi justement de pouvoir compter sur une expertise internationale. On avait une équipe en France qui vendait du podcast, qui a quasiment mis en place les prix qui sont devenus les prix du marché aujourd'hui. C'est ça aussi le côté être leader, c'est quand toi t'annonces des prix que t'imagines et que t'estimes il y a un an et qu'un an après, c'est les prix qui sont utilisés par tout le monde. Bon, ça veut dire quelque chose.
C'est clair.
Et après, en fait, voilà, petit à petit, le catalogue Acast, c'est-à-dire les podcasts représentés par Acast, ça doit être environ 50% du natif. Et on estime à plus de 70% les revenus du podcast du natif qui sont défendus par Acast. Parce qu'on est vraiment ultra force de proposition et force de conviction et surtout force d'évangélisation dans les agences.
C'est passionnant. Art 19, ils font quoi? Parce que, alors moi, pour moi, dans le secteur, j'avais entendu parler avant de venir chez vous de Art 19, donc Art 19 en français.
Ouais.
Et Ocha, bien entendu. Voilà, je veux pas faire de pub comme ça, mais c'est intéressant quand même de parler du marché. Quelle est la différence? Donc, enfin, non, j'ai compris la différence. Mais est-ce que vous êtes vraiment les seuls à avoir ces mesures d'audience, ces sortes de certification, en fait, on va dire. Ils ne les ont pas, eux ?
Mais en fait, chacun a un peu le truc à sa sauce.
D'accord.
Ocha, par exemple, a pas de certification IAB, c'est-à-dire qu'ils continuent de compter leurs statistiques avec leurs algorithmes à eux. Mmh. Ils sont certifiés à CPM, mais la CPM, c'est un classement auquel les éditeurs doivent s'inscrire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde le classement de la CPM, moi, j'ai pas reconnu de podcast d'Ocha dedans, parce que les éditeurs ont pas publié leurs chiffres là-bas. Ça arrivera. Mais du coup, il y a une vraie différence entre les statistiques que toi, tu mesures sur ton site et ce qui arrive sur la CPM. Nous, on a vachement bossé avec la CPM qui s'inspirait de l'IAB, ce qui fait que la différence de stats entre IAB que nous, on a et la différence à CPM est très, très faible.
Bien sûr.
Quand tu pars d'un comptage qui est maison, tu peux avoir des différences qui sont très hautes, ce qui peut expliquer cela. À côté, Art 19, eux sont en France, mais n'ont pas leur régie en France, donc ils monétisent pas en France. De la même façon qu'Ocha ne monétise pas, c'est un modèle d'hébergement.
Ouais.
Donc tu payes en tant que podcasteur un hébergement, un abonnement chaque mois pour être hébergé. Mm-hmm. Alors que le modèle d'Acast, sur le principe, il est publicitaire. Ouais. Acast, c'est pas une boîte d'hébergement. Acast vit sur les revenus publicitaires. Ouais. Tout le principe de monétisation, le but des podcasteurs qui est de gagner de l'argent par des campagnes pub et le but d'Acast, c'est le même. Donc, nous, en fait, derrière, on a développé des outils techniques pour servir le but ultime qui est la monétisation. Ce qui est une vraie différence avec un service comme Ocha qui héberge et puis après, à toi de voir comment tu veux monétiser. Petit à petit, il plug des outils, ainsi de suite. Et Art 19 fait à peu près la même chose qu'Acast, sauf qu'ils sont américains, donc ils sont IAB, ils sont pas à CPM, ils ont pas d'équipe en France. Ils n'ont pas de monétisation en France. Mmh. Et le marché américain est extrêmement compétitif. Donc, je ne pense pas que ça leur laisse beaucoup de temps aujourd'hui pour réfléchir à ce qui se passe en dehors des US. Donc, voilà un petit peu la différence.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que, techniquement, moi, je me souviens d'un article qui est paru dans la presse, etc. Vous avez reversé des sommes aux podcasteurs assez importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, Est-ce que les médias, par exemple, les médias traditionnels, je pense aux Échos, je pense voilà aux médias qu'on peut, enfin qui étaient papier initialement, est-ce que eux peuvent escompter avoir plus d'argent grâce à vous? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avec le contenu podcast des Échos, ils sont chez vous parce que ils cherchent à soit de la visibilité, soit de l'argent, soit les deux. Tu vois, je parle pas des...
de l'argent.
Ouais, tout le monde cherche de l'argent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, peut-être que ils vous confient pas la régie. Enfin, tu vois, ma question, c'était est-ce qu'ils vous confient la régie ou pas?
Alors, ils sont venus travailler avec nous justement pour qu'on fasse la régie.
D'accord.
Nous, on travaille en co-monétisation, c'est-à-dire qu'on demande l'exclusivité sur la régie externe.
C'est ça.
Les gens qui peuvent représenter un podcast à l'extérieur, mais on bosse évidemment main dans la main avec les régies internes, les commerciaux de ces différents titres. Parce que nous, on va réussir à les vendre et les positionner sur les briefs qui passent, sur lesquels on va positionner plusieurs médias. On va travailler vraiment sur du contextuel en podcast. Ça, c'est intéressant parce que c'est un, à la base, la pub était, les ciblages pub étaient faits pour ça. Après, on s'est pris 20 ans de sirène de la data et de plus en plus, les gens ont arrêté de se poser la question de où passer leur pub. Et ils se disaient, grâce à tous ces ciblages qui s'ajoutent les uns les autres, je vais choper mon utilisateur 5 minutes avant qu'il achète quelque chose sur Amazon et je vais pouvoir lui envoyer la pub qui va déclencher un acte d'achat sur ma marque. Mmh. Ce qui, on en revient un petit peu de cette vision-là, ultra data de la pub. Pas mal d'articles très critiques d'ailleurs sur des anciens de Google en ce moment sur tout ça. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le podcast, techniquement, il y a plein de choses qu'on n'a pas. C'est pas basé sur du cookie comme les sites web. On n'a pas la plupart des informations de l'auditeur. Donc, ce qu'on a comme information, c'est ce qu'il est en train d'écouter. Et mine de rien, ça Marie Kondoise un peu les problématiques du podcast.
Bien sûr.
En revenant à l'essentiel, qui est qu'est-ce que t'écoutes et qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme publicité qui fonctionne sur ce type de contenu.
C'est clair.
Et ça fait du bien aussi de revenir, en fait, au fond, quoi.
Bien sûr. C'est évident. Et Cédric, on va arriver à la fin de l'interview, figure-toi, parce que ça fait déjà trois quarts d'heure qu'on est ensemble. Écoute, je pose toujours la même question à mes invités en fin d'interview. Enfin, il y a trois questions, à vrai dire, que je pose de manière récurrente. C'est leur vision de la France. En sachant que c'est une question volontairement large pour te laisser une part de spontanéité la plus pleine et entière. Ensuite, il y a deux autres questions. C'est un coup de cœur et un coup de gueule. T'es pas obligé d'en avoir. Et puis, ça peut être hyper diversifié. C'est-à-dire que, moi, les coups de cœur, il y a des gens qui me parlent d'une rencontre, il y a des gens qui me parlent d'une pièce de théâtre, d'un livre, d'une chanson, d'une série. Enfin, tu vois, c'est très varié. Et le coup de gueule, c'est un coup de gueule, quoi, tu vois. Enfin, c'est un coup de gueule gentil, pas gentil, mais un coup de gueule quand même.
Avec plaisir. Ma vision de la France, c'est marrant parce que ça a vachement changé. Plus j'ai bossé dans des boîtes internationales, plus j'ai kiffé la France. non pas que j'aime pas les autres pays,
ouais.
Mais c'est vrai que quand tu vas ailleurs,
tu te rends compte de la chance qu'on a.
Bah ouais.
Ouais.
Bah ouais.
D'accord.
Et du coup, c'est vrai que voilà, j'ai retrouvé un peu l'amour de la France en bossant avec d'autres pays. Et en plus, pour moi, je suis vraiment fasciné par les médias. Je fais toute ma carrière dans les médias. Mm. C'est un pays qui est ultra intéressant parce qu'on est ultra créateur. On a, je sais plus, genre 75 000 titres de presse en France. Et il y en a 3 000 qui se créent chaque année, un truc comme ça. C'est hallucinant. La création médiatique qu'on a en France, elle est très variée et en même temps, elle fait face aussi à ses propres problématiques. Il y a beaucoup de grands titres qui appartiennent à des groupes. Il y a des vraies méfiances en France sur la presse et les groupes médias. Et petit à petit, je trouve qu'en fait, ce pays et ces groupes essayent vraiment de se poser les bonnes questions pour retrouver la confiance des gens qui consomment des médias. Et je trouve que c'est assez vivant. Alors, on a plein de choses encore, plein d'évolutions. Mais je trouve que c'est assez fascinant la consommation et la production des médias en France.
Je suis d'accord, c'est assez fascinant.
Le coup de cœur.
Ouais.
Écoute, on va faire un coup de cœur podcast, alors réel, évidemment.
T'es gentil, c'est super objectif, merci beaucoup.
Voilà.
Merci quand même d'avoir fait l'effort, je trouve ça cool.
Non mais en plus, c'est vrai que je t'ai découvert assez tardivement, moi.
Ouais, bah écoute, on n'arrête pas de me le dire en ce moment, je sais pas pourquoi, mais les gens me découvrent tardivement alors que ça fait bientôt 3 ans, tu vois.
Ouais, c'est le fameux troisième siècle.
Ouais.
Troisième cercle, pardon.
Exactement.
T'as besoin de...
Exactement.
Moi, c'est par Sarah, justement, que je t'ai... Sarah Korn de Ulule.
Ouais. Enfin, qui maintenant travaille avec Marc Ménassé pour un fonds d'investissement à impact, ouais.
Absolument, il ne travaille plus du tout pour Ulule.
Rappelons-le, d'ailleurs. Super interview, d'ailleurs, avec Sarah.
Ouais, elle est ultra intéressante, elle est brillante.
Très, très brillante. Ouais, c'est vrai.
Un autre coup de cœur en podcast aussi, histoire que ce soit pas complètement... c'est L'envers du décor, podcast du Huffington Post.
Je vois très bien, il est top, t'as raison.
Ouais. Bah du coup, écologie, je trouve que c'est très malin.
Ouais, c'est vrai.
Ça fait du bien de revenir pendant 20-25 minutes sur des sujets qui sont pas toujours évidents.
Ouais.
Mais ils prennent le temps, voilà, d'expliquer.
Mm-mm.
Je trouve que le format est rigolo. C'est une discussion scriptée, avec un moment de quiz à la fin. Ils font intervenir des experts.
Mm-mm.
Alors, ils savent pas encore super bien jouer la comédie, mais ça va se trouver au fur et à mesure.
Mm-mm.
Mais par contre, je trouve que le contenu est vraiment ouf.
T'as raison. J'y pense pas assez, mais t'as raison.
Et un coup de gueule, écoute, j'en ai pas. Ah, si, en fait, ce serait bien, pour le bien de toute la scène podcast, mmh. effectivement, que tout le monde soit un peu plus, effectivement, transparent et soit dans la structuration du marché. C'est vrai que cette année, ça a été une année un peu de crispation, même
d'accord.
en termes monétaires, quoi. Et ça a été compliqué et tout le monde a souffert.
Ça s'est ressenti.
Alors, nous, ouais. Alors, on est content chez Acast parce qu'effectivement, on a quand même réussi à travailler cette monétisation sur une première année. La régie, elle a ouvert en septembre et 5 mois après, en mars, on a eu un confinement.
Mm-hmm.
Donc, c'était pas une évidence. On est arrivé à... Là, avant la fin de l'année, on aura reversé 1 million d'euros aux podcasteurs en France, ce qui est encourageant,
mm-hmm.
mais ce qui n'est qu'un premier jalon.
Surtout que... Ouais,
puisque...
La question que je t'avais posée, c'est oui, mais à combien de podcasteurs? Parce qu'un ouais. million à deux, c'est cool, mais 1 million à plusieurs, c'est moins.
Ouais. Mais en France, on défend quelque chose comme 600, 700 podcasts.
Ouais, c'est ça.
Donc, qui ont toutes des tailles aussi très différentes.
Mm-hmm.
Donc, le niveau de monétisation varie. Et après, 1 million sur une année, ça fait un peu plus de 100 000 euros par an.
C'est ça.
Donc c'est intéressant.
1 million sur une année, ça fait 100 000 euros par an. C'est-à-dire pour, tu parles de quoi?
100 000 euros par mois, pardon.
Oui. Oui, oui, d'accord.
Par mois. Et en fait, 110 000 euros par mois, finalement, ramené à la taille d'un marché, c'est encore naissant,
bien
encore
sûr.
Émergent.
Bien sûr.
Donc l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin.
Oui.
À titre de comparaison, Acast a reversé 100 millions d'euros à tous les podcasteurs au niveau internet, en Europe, pardon, les 4 dernières années.
100 millions
Donc,
d'euros
Ouais.
D'accord.
Donc il y a encore une grosse marge de progression,
mm-hmm.
Qui est le but. Et surtout, en fait, il y a beaucoup de sous qui sont investis en audio en France. Alors, pas forcément encore en audio digital, beaucoup en radio.
Ouais.
Et l'audio digital est un petit peu à la traîne en France parce que, historiquement, ça a toujours été un petit peu à la traîne. Même en streaming et tout ça, ça a pris plus de temps que dans d'autres pays pour s'installer et absorber des budgets un peu plus conséquents.
Ouais.
Je pense vraiment que le podcast a le pouvoir et le potentiel de percer un peu ce mur et d'amener les marques dans un univers audio-digital. Mais pour ça, effectivement, il faut être structurant et il faut vraiment défendre de la transparence, des statistiques, un modèle publicitaire qui soit fiable et effectivement une techno publicitaire qui fonctionne. Et il faut vraiment faut vraiment que tous les acteurs s'accordent un peu sur ça au lieu de chacun tirer de son côté en pensant que la poule aux œufs d'or va s'échapper.
Je suis entièrement d'accord. Et d'autant qu'en plus, c'est la transparence qui crée les facteurs différenciants, en fait. C'est-à-dire que pour que chacun puisse avoir une vraie valeur ajoutée, je pense, il faut qu'on mette un peu carte sur table pour pouvoir évaluer ce que fait le copain d'à côté et ensuite trouver vraiment son positionnement, en fait. Et tant qu'on ne sait pas ce que fait l'autre, forcément, c'est compliqué.
Amen.
Bon, en tout cas, Cédric, j'étais vraiment ravie d'échanger avec toi. Je pense que je suis la seule, non, à t'avoir interviewé, ou est-ce que t'as déjà fait d'autres podcasts par hasard?
Non, pas de podcast On a fait quelques événements, Paris Podcast Festival, oui, ça, ouais, Masterclass, des trucs comme ça, mais pas de pods.
Bon, bah écoute, je suis ravie, j'ai une exclue, c'est fantastique.
Yes, merci. Merci à toi, Estelle.
Bah merci, très bonne continuation à toi, à Cast, et puis bah, je te dis à bientôt.
Yes, et donc n'oubliez pas de voter donc 5 étoiles sur Apple Podcast, ouais. On laisse un commentaire à Estelle pour réel, et on partage auprès des petits copains sur LinkedIn, exactement. Instagram et partout.
Exactement, c'est super important, vraiment. Merci. Salut Cédric.
Ciao. Salut Estelle.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.